Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Chaque année, le Festival Toulouse Polar du Sud invite les meilleurs auteurs de polar. Dès la mise en ligne de la liste des invités, je me précipite pour connaître les heureux élus. Lorsque j'ai découvert le nom de notre invité d'aujourd'hui, je me suis donné aussitôt les moyens de l'inviter. En effet, j'avais lu en 2023 le premier roman d'Olivier Sichelski, intitulé « Feu dans la plaine », un roman très réussi en forme de western montagnard. Et je m'étais dit « Attention, talent à suivre ». Et de façon providentielle, il vient à Toulouse présenter son nouveau livre, un livre au titre énigmatique et ensorcelant, « Le livre des prodiges », paru aux éditions du Rouergue. Un livre sombre où les lieux sont aussi envoûtants que d'une atroce trivialité. Comme dans tout bon polar, on y interroge le mal, dans toutes ses dimensions, celui que l'on subit comme celui que l'on fait volontairement ou malgré soi. Je le remercie vivement d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Bonjour Olivier Sichelski.
Bonjour.
Bienvenue dans ces studios.
Merci.
Je ne vais pas me répéter en disant que je suis très content d'être face à vous. Alors, pour commencer, j'aimerais que, tout simplement, vous vous présentiez aux auditeurs et aux auditrices de Paroles d'auteur, savoir un peu quel est votre chemin professionnel ou personnel qui vous a conduit à l'écriture.
Très rapidement, je crois que je suis un débutant tardif en termes de roman, puisque mon premier roman, Feu dans la plaine, a paru alors que j'avais déjà 50 ans. Avant l'écriture de ce roman-là, j'ai évolué peut-être un petit peu à la marge du cinéma, du scénario, d'abord en réalisant des courts-métrages et des documentaires, et puis en travaillant notamment comme lecteur de scénario pour Canal+, en particulier. Il s'agissait d'évaluer des projets de films qui étaient en recherche de financement. Et puis, j'enseigne le scénario également, donc je tourne quand même beaucoup autour de l'art de raconter des histoires.
Oui, c'est ça. Vous enseignez à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, dans les notices biographiques que j'ai lues sur Internet. Donc, en effet, les histoires, entre guillemets, ça vous connaît. Et puis, il y a aussi cette idée, enfin, ce nom, c'est Script Doctor. Alors, moi, oui, qui n'ai aucune culture cinématographique et qui plutôt ma seule culture c'est celui d'acheter un ticket de cinéma, de regarder un bon film et ensuite à la fin du générique je n'ai pas vu Script Doctor. C'est quoi un script doctor?
C'est vrai qu'il y a une grande injustice, c'est qu'on a du mal parfois à être reconnu et mentionné au générique. Moi j'utilise pas énormément ce mot qui contient le terme de docteur, celui qui sait, le savant qui connaît toutes les arcanes de l'écriture. On dit souvent consultant en scénario, c'est-à-dire que quand un scénario est malade ou quand un scénario n'est pas prêt, quand un producteur craint que son scénario ne soit pas prêt à être envoyé aux gens qui ont de l'argent et qui sont susceptibles de le financer, ou quand le scénario est en panne, on appelle un consultant en scénario ou une consultante qui va le lire, en analyser les forces et les faiblesses, établir un diagnostic et essayer de proposer des pistes de réécriture pour l'améliorer.
D'accord. Et en parlant de forces et de faiblesses, c'était une de mes questions. Entre les deux arts, le cinéma et la littérature, quelles sont ses forces et ses faiblesses en termes de fabrique de la fiction, de faire marcher l'imaginaire chez le spectateur ou le lecteur? C'est une vaste question.
Oui, hein. Il y a deux aspects dans votre question. Si je devais parler des forces et des faiblesses d'ordre esthétique du littéraire et du cinématographique, là, ça nous entraînerait très loin.
Enfin, j'aimerais faire gagner au point la littérature contre l'image, puisqu'on est dans une émission littéraire. Mais
disons qu'il y a des outils et des atouts que la littérature a et que le cinéma n'a pas, comme l'introspection, par exemple, le monologue intérieur, des choses comme ça. Mais il y a des outils que le cinéma a et dont la littérature ne dispose pas, comme le son et la musique notamment, qui parfois occasionnent une petite frustration de ma part quand j'écris un roman.
D'accord. Et donc, votre culture cinématographique influence votre écriture. Est-ce qu'il faut se défaire de certaines habitudes ou de certaines techniques quand on écrit et qu'on a fait beaucoup de conseils en scénario? Il faut ouvrir d'autres canaux, sans doute.
Alors, pour revenir brièvement à votre question précédente, parce que j'ai pour la compléter, en termes de fabrication, à strictement parler, la littérature est beaucoup plus un lieu de liberté, où celui ou celle qui écrit a un interlocuteur ou une interlocutrice qui est son éditrice, par exemple, dans mon cas, alors qu'en cinéma, en audiovisuel, on a une myriade de personnes qui sont en droit de faire des remarques parce qu'elles font partie des gens qui financent, parce qu'elles font partie des gens qui savent ce que veut le public, parce qu'ils vont être amenés à vendre ce film, donc ils veulent avoir un droit de regard sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en ça, la littérature est un vrai lieu de liberté. Pour quelqu'un d'assez solitaire comme moi, c'est parfait. Maintenant, pour revenir à la question que vous venez de me poser sur est-ce qu'il faut se débarrasser peut-être de certains automatismes ou de certains outils du cinéma qui seraient paralysants ou qui seraient des entraves pour l'écriture littéraire, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut utiliser tout ce qui est à notre portée. Pour écrire une scène, par exemple, moi, j'ai certainement hérité du cinéma cette habitude de visualiser avant d'écrire. C'est-à-dire que je me projette la scène sur un écran mental, un écran intérieur. Par exemple, je sais que la scène va commencer par un gros plan et que je vais élargir le cadre progressivement et ça me guide dans la description.
C'est l'écran noir de vos nuits blanches ?
C'est ça, tout à fait. Par ailleurs, je pense que j'ai peut-être intégré plus ou moins. Alors je ne me reporte jamais aux outils, aux livres de scénario, etc. Mais je pense avoir intégré au fil du temps certains réflexes narratifs, une certaine façon de raconter pour arriver à un objectif qui, moi, reste mon guide principal, c'est de toujours jouer avec la curiosité du lecteur ou de la lectrice.
C'est réussi.
Merci. Toujours faire en sorte qu'on ait envie de tourner la page et qu'on retrouve ce plaisir que, en tout cas, moi, j'avais enfant. C'est-à-dire quand vous êtes au lit et que les parents veulent que vous éteigniez et que vous dites « encore un chapitre, s'il te plaît ».
D'accord. Eh bien, dans votre premier roman, ça, c'est sûr que on est pris par la tension narrative. Vous avez publié ce premier roman il y a 2 ans, je crois. Il est publié cette année au Livre de Poche. Il s'intitule « Feu dans la plaine ». Et là, nous sommes projetés au Grand Air en compagnie de Stan Kosinski, je l'appelle comme ça,
oui,
mais vous...
Kosinski.
Kosinski. Et donc, j'aimerais que vous nous disiez qui il est, cet homme.
Stan Kosinski, c'est un jeune retraité, puisqu'il est... C'est un ancien militaire qui a participé à différentes opérations extérieures et qui a décidé de prendre une retraite isolée, c'est-à-dire qu'il a trouvé un bout de terrain avec une maisonnette sur une colline, quelque part aux confins de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et plus le temps passe, plus il se sent bien dans cet environnement où il est seulement entouré d'arbres, d'animaux. Il vit de plus en plus une forme d'autarcie volontaire.
Il a quand même Tarzan.
Il y a Tarzan. Tarzan qui est un être curieux, un marcassin. Qui s'est retrouvé prisonnier de ce qu'on appelle une aire de nourrissage. Donc il s'est retrouvé prisonnier entre des grillages et puis il s'est mis, donc Stan s'est mis à le nourrir et Tarzan s'est habitué à lui, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, car les animaux sauvages doivent avoir peur des humains, c'est même une des conditions de leur survie.
Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois la domestication du sauvage et chez Stan, du fait de l'engrenage, engrenage qui est finalement... une querelle de voisinage, eh bien, lui, il va être porté vers plutôt la sauvagerie d'une certaine manière.
Alors, c'est un raccourci très rapide, mais tout à fait juste, même si, effectivement, l'engrenage, le sauvage met du temps à revenir et que, en effet, ça commence par une sorte de grain de sable presque infime, hein, un conflit de voisinage qui devrait se résoudre pacifiquement. Mais il suffit de certains traits de personnalité, il suffit que quelqu'un ne sache pas s'excuser, il suffit que quelqu'un considère qu'un étranger n'est pas le bienvenu, et puis le ton peut monter. Et en effet, c'est le début d'un engrenage, d'une sorte de crescendo qui va guider l'intrigue du livre jusqu'à... qu'au moment où, dans une deuxième partie, le nombre des protagonistes humains diminue progressivement et où le personnage, le protagoniste, se retrouve effectivement seul dans la nature.
Alors, ça nous renvoie à cette quatrième de couverture que j'ai trouvée très éloquente, hein, dans laquelle il est dit « Dans ce premier roman de haute intensité qui fait se rencontrer Giono et Rambo, Olivier Tsichelsky nous emporte dans un territoire où la survie est une lutte de chaque instant. » Pour moi, c'est un éloge justifié. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la deuxième partie du roman, le paysage devient un personnage. Et ça, c'est très, très fort.
Bah, le paysage existe en tant que... Comment expliquer? Il existe en tant qu'il fait écho, en tant qu'il est perçu, en tant qu'il est reçu, en tant qu'il est vécu par le personnage. C'est-à-dire que... ça n'est pas seulement un décor. Voilà, on a l'habitude de parler d'environnement, c'est-à-dire comme si c'était la nature était quelque chose qui nous environnait, qui nous encerclait. Là, le personnage est en train de s'enfoncer au plus profond d'un ce que les Américains appellent wilderness, c'est-à-dire le monde sauvage. Mais en même temps, donc, c'est-à-dire que ses perceptions. Alors, pour survivre, il doit imiter les animaux. Pour survivre, il doit pister des animaux. Et pister un animal, c'est se mettre à sa place. C'est se dire, si j'étais ce chevreuil, dans quelle direction j'irais? Est-ce que j'irais vers l'eau? Est-ce que j'irais vers le bas? Etc. Donc, il commence à y avoir un échange entre l'humain et l'animal qui fait qu'il y a une circulation du sauvage ou qui fait que le personnage n'est plus seulement au milieu du monde sauvage, mais le sauvage en lui, c'est-à-dire l'animalité qui est en chacun de nous, elle commence à s'éveiller.
Mais il est aidé aussi par sa condition d'ancien militaire et des techniques. Là, c'est en ça où le rappel de Rambo, qui est
Oui.
connu dans la culture populaire pour être le survivant traqué.
C'est ça. Alors, pour modérer ou nuancer un petit peu
oui.
ce point de vue, c'est pas non plus un surhomme, et ça n'est pas, Stan n'est pas comme Rambo, un soldat surentraîné, entraîné à la survie, c'est-à-dire qu'il va faire, il fait des bêtises, il y a des choses qu'il fait mal, il connaît pas les plantes, il s'empoisonne parce qu'il mange une plante qu'il devrait pas manger, il n'est pas non plus invincible, c'est vrai que le personnage de Rambo... m'intéressait, mais presque plus pour le premier quart d'heure du film, si on parle du film, puisque Rambo est l'adaptation d'un roman aussi, dont la fin est très différente de celle du film. Le premier quart d'heure de Rambo, c'est un ancien soldat, c'est un soldat qui revient du Vietnam pour voir un copain dont il apprend qu'il est mort, probablement suicidé, si je me souviens bien. Et au lieu d'être accueilli en soldat, en défenseur des États-Unis, peut-être même en héros, comme il a les cheveux longs, qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours et qu'il arrive en stop, il se fait éjecter de la petite ville proprette où il débarque. Et c'est ça qui... Et il revient.
C'est le déclenchement de la violence.
C'est le déclenchement. Et il revient et dit « Mais je veux un sandwich. » Et on lui dit « On ne veut pas de toi ici. » Et il lui dit « Je veux mon sandwich. » Et comme dans Feu dans la plaine, c'est ce petit élément qui va déclencher la violence.
Stan, il veut son excuse.
Il veut des excuses, oui.
Il veut des excuses. Donc on a parlé d'un roman de haute intensité, et pour continuer de parler d'intensité, j'aimerais qu'on passe à au roman qui vous amène ici à Toulouse, à Polar du Sud, qui est Le Livre des Prodiges. Et d'intensité, il n'en manque pas. En revanche, on est loin des cimes. Je dirais même qu'on est en périphérie, au-delà du périphérique parisien. D'ailleurs, vous écrivez, un boulevard circulaire où les voitures tournent 24 heures sur 24 comme des fauves VBT dans un enclos trop étroit. Alors où sommes-nous ici et qui sont les protagonistes?
En effet, on est dans un décor complètement différent. Il y a beaucoup moins de chlorophylle et beaucoup plus de béton, beaucoup moins d'ouverture aussi, puisque le décor de Feu dans la plaine est totalement ouvert. Celui-ci est circonscrit dans une sorte de cercle ou de demi-cercle qu'on appelle parfois la presqu'île de Gennevilliers. Qui est niché dans une boucle de la Seine à l'ouest de Paris, Gennevilliers étant peut-être une des villes ou la ville la plus populaire de France. C'est un ancien... autrefois, c'était du maraîchage, des champs. On nourrissait les Parisiens avec les légumes qui poussaient à Gennevilliers. Et puis, petit à petit, avec l'industrialisation, On y a construit des usines et puis autour des usines, des logements ouvriers. Et puis c'est devenu une ville ouvrière assez peuplée.
Et il y a les ports aussi. Ça, c'est une découverte pour moi dans cette lecture. On a l'impression que le Havre, enfin toute la façade atlantique est éloignée. Mais elle est là, elle passe, on remonte la Seine avec des...
Il y a le port de Gennevilliers qu'on appelle Port de Paris, en réalité, sur lequel moi-même je suis tombé par hasard en me perdant une nuit... Quand j'ai vu une pancarte douane, je me suis demandé si je m'étais vraiment éloigné tant que ça. En réalité, le port de Gennevilliers, c'est le port par lequel transite tout ce qui est déchargé des portes-containers qui accostent au Havre et qui remonte vers la capitale et toute sa région. Donc tout ce qui se vend ou s'achète dans le nord de la France transite souvent par le port de Gennevilliers. Et donc c'est là que j'ai, dans cet univers un peu particulier, que j'ai situé l'intrigue du roman.
Alors maintenant qu'on a situé l'intrigue du roman, et avant de parler des différents personnages, j'aimerais que nous fassions une pause musicale. C'est une pause qui parle de feu. Il s'agit d'une chanson de Gilles Kaplan qui s'intitule « Tout éteindre », tirée de l'album « Sur les cendres dansées ».
Parole d'auteur. Christophe Hein.
Nous sommes de retour après avoir écouté une chanson de Gilles Kaplan. Nous sommes de retour avec Olivier Sichelski qui publie aux éditions du Rouergue le livre des prodiges. Il nous a parlé de Gennevilliers, de cette banlieue, de son histoire et son récit fait intervenir un équipage de police de voie publique pour lequel j'aimerais lire un échange. C'est un dialogue, pour tout dire. C'est le sous-brigadier qui interpelle le brigadier. Ils se sont arrêtés avec leur voiture sérigraphiée dans une patrouille de nuit. Et le sous-brigadier dit « Mais chef, pourquoi vous pissez toujours ici ?» Et le brigadier-chef dit « Par goût du sublime. » Et le sous-brigadier dit « Mais ah bon ?» Et il s'appelle William. William considéra un moment le reflet mouvant des cuves dans la Seine. Entre le chemin de fer et l'usine de traitement des eaux, la station d'hydrocarbures ressemblait à un vaisseau spatial au carénage. Voilà l'ambiance, voilà les protagonistes. Et dans cette voiture, il y a aussi une femme qui s'appelle Nora Kodjo. Alors, de la même façon qu'on a parlé de Stanislas, j'aimerais parler de Nora.
Nora, c'est une jeune femme d'environ 25-26 ans. Qui est dans la police depuis quelques années, qui n'est pas vraiment utilisée à sa juste valeur par sa hiérarchie.
Il y a peut-être un plafond de verre.
Il y a certainement un plafond de verre. Donc elle rêve, disons qu'elle est entrée dans la police avec une sorte d'idéal qui est presque enfantin, mais qui paraît légitime, c'est-à-dire protéger les faibles, la veuve et l'orphelin, rétablir la justice, ce genre de choses. Alors évidemment, elle est un petit peu déçue par le travail, notamment de patrouille, qu'elle est obligée de faire chaque nuit avec ses deux collègues-là, qui ont l'air de s'ennuyer un petit peu. De la même façon qu'elle est dans un état de frustration, parce qu'elle a une particularité qui la différencie de la plupart de ses collègues, c'est qu'elle est croyante, elle est très croyante. Elle a même peut-être une forme de presque de mysticisme, c'est-à-dire que de la même façon qu'elle a une sorte d'idéal, que c'est un idéal qui l'a entraînée dans la police, elle n'attend qu'une chose, c'est un signe de Dieu. Elle n'attend que le moment de pouvoir agir en son nom. Elle n'attend que le moment de prouver qu'elle est forte et qu'elle peut accomplir sa volonté. Elle se voudrait un petit peu le petit soldat de Dieu à Gennevilliers. Malheureusement, Dieu reste assez silencieux.
Et ça, en effet, il y a un certain mysticisme dans votre livre, et il est construit un peu avec des parties. Et il y a environ 7 parties, alors vous me direz, est-ce que c'est les 7 jours de la Genèse? Moi, je vois des signes partout, hein, comme Nora. Mais chacun de ces 7 parties est introduite par une citation. Alors, il y a 2 citations du Nouveau Testament. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'en ferai jaillir des choses cachées depuis la fondation du monde. » Ou encore « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Des citations de psaumes. « L'eau t'a vu et elle a tremblé, même les gouffres ont frémi. » Mais aussi des citations philosophiques, « Dieu ne parle ni ne cache, il fait signe », ou enfin « Le mal est l'ombre du bien ». Et il y a une dernière partie, en fait c'est une chanson du dernier album de Leonard Cohen, où il est écrit « Ineni, ineni, I'm ready my Lord, me voici, je suis prêt, mon Dieu », dans son album. Je trouve que, alors bien souvent, c'est simplement pour ne pas perdre le lecteur, soit la pagination, soit le chapitrage, etc. Mais ces citations, elles marquent beaucoup le récit. Et en tout cas, moi, elles m'ont vraiment embarqué. Est-ce qu'elles étaient là avant? Est-ce que c'est elles qui ont été des guides? Est-ce que vous les rencontrez par hasard au moment de l'écriture?
Alors, ça, c'est vraiment différent selon les citations. Par exemple, le Dieu ne parle ni ne cache, il fait signe. C'est un souvenir de la terminale. C'est les présocratiques. C'est le genre de phrase qui vous reste parce que vous sentez qu'il y a là une vérité, même si vous ne la saisissez pas dans son ensemble. C'est exactement la même chose qu'avec la citation de Simone Veil. le mal est l'ombre du bien. Je trouve cette phrase fascinante parce que je sens qu'elle est vraie. Je pense que je ne comprends pas toute la portée. Et je pense aussi qu'elle correspond très bien à Nora, qui, à vouloir faire le bien envers et contre tout et par tous les moyens, court le risque de devenir aussi violente, aussi coupable que les coupables qu'elle veut punir.
Elle désarçonne du reste son curé qui est son en tout cas accompagnateur spirituel, ou en tout cas elle est une, au début du roman c'est une paroissienne engagée.
Oui, c'est ça, et c'est quelqu'un qui fréquente assidûment l'église et qui est vraiment une présence importante auprès de son curé, et lui-même est un interlocuteur important pour elle. Mais plus on avance dans l'histoire, plus elle est frustrée et déçue par les réponses du prêtre, dont elle finit par se dire, qu'elle finit même par accuser de n'être qu'un petit fonctionnaire de la foi qui n'est pas à la hauteur de ses aspirations à elle.
Ouais. Mais au travers du récit, on voit qu'elle ramène chez elle à chaque fois aussi tout le mal qui se fait à travers cette ville, avec tout le pire. Et on peut comprendre qu'elles vivent d'une certaine manière une nuit de la foi. Enfin, oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, parce que voilà, quand on est entouré du pire, qu'on croyait à la justice, que la loi était représentée par la police et incarnée par des collègues qui, au-delà de la moquer pour sa foi, mais ça n'a aucun... Voilà, ça peut être pas de... Bon. Mais surtout, voilà, ces collègues, ils voient qu'ils ne sont pas tout à fait... dans les clous. Et donc tout ça, ça s'effondre.
En fait, c'est un personnage qui... Alors peut-être que c'est vrai de tous les personnages. Je pense que c'est un personnage qui vit une crise profonde, qui est d'autant plus violente que ses aspirations étaient élevées. En fait, c'est un personnage qui s'est forgé une sorte de squelette ou d'exosquelette et de carapace faite d'aspirations, de surmoi, de respect de la loi, d'amour de Dieu, d'idéal, avec une conscience très forte du bien et du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, que quand ce genre de personnage qui tient debout grâce à ce type de carapace, quand la carapace s'en vient à se fissurer, c'est à la fois une renaissance, c'est-à-dire que ça va laisser monter à la surface des choses qui étaient réprimées, par exemple la colère. La colère, elle l'a toujours réprimée. En réalité, elle est là, elle bouillonne, donc elle demande à sortir. Peut-être une certaine violence aussi. Donc, la crise, c'est toujours un moment à la fois de naissance et de mort. C'est un moment de naissance et de douleur. Mmh. Et elle est en train, en effet, de vivre en fait la mise en difficulté de tout ce qui lui permettait de vivre jusqu'à maintenant. Dans son harnachement, toute sa structure psychique et spirituelle, elle subit les assauts du réel. Et ça, c'est pas facile.
D'autant qu'elle est originaire, enfin, elle a des origines africaines, que le récit se passe dans le milieu de la prostitution. Et ça va être aussi quelque chose qui bascule vers... on disait tout à l'heure pour Stan... vers l'animalité, mais vous faites très bien le parallèle entre ce qui arrive à Nora, c'est-à-dire le retour à une certaine, je ne sais pas si on peut le dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, africanité, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, si on a le droit de le dire. Et puis aussi, à Gennevilliers, il y a ce caractère un peu, moi j'ai trouvé, le caractère spongieux du sol, les nuits presque luxuriantes.
Alors, j'avais pas pensé à ça. Au côté, alors effectivement, l'intrigue se déroule durant un été caniculaire. C'est pas dit explicitement, mais c'est plus ou moins entre le solstice et l'équinoxe. Entre le 21 juin et le 21 septembre, il fait de plus en plus chaud. En revanche, Nora, elle est assez coupée hein, de ses origines africaines. Évidemment, les origines... parfois, on s'en coupe autant que possible et puis elles reviennent. Hein, ça, c'est je peux pas le nier. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai réellement exploité. Voilà.
Ouais. Elle passe sa vie, vous écrivez très, la vie au tamis de son âme. C'est assez beau. Et mais bon, il y a l'esprit, la spiritualité, puis il y a le corps aussi. Il y a un très beau passage sur la course à pied parce que on sent quand même que voilà, l'atmosphère devient pesante, il y a une pression psychologique importante, et elle parcourir Nora, et je vous lis. La foulée, par sa régularité, engendre d'abord une forme de ressassement, accentuée par l'ostinato de la respiration et la pulsation des pieds sur le sol. Puis, quand le corps est chaud et que le tempo, à force de répétition, devient conscient, à la manière de roulement des machines dans le tréfonds d'un cargo, l'esprit s'émancipe de la grille du rythme et se met à construire, élaborer, engendrer dans une clarté grandissante. La simplicité se fait jour là où régnait l'indécidable. Foulée après foulée, l'évidence l'emporte sur la confusion, le sens se dessine dans le chaos. Je trouvais ça très...
Ça, c'est quelque chose dont font l'expérience tous ceux et toutes celles qui courent, je trouve. Cette régularité de la foulée qui amène une sorte de clarification des idées qui peut-être étaient confuses, embrouillées, des problèmes qui paraissaient insolubles et qui vont se régler dans cette espèce de ritournelle rythmique. C'était aussi, oui, le corps est vraiment quelque chose, Nora est quelqu'un qui réprime un peu tout ce qui a trait au corps au départ, sauf sous la forme du sport, de l'activité, de la dépense. C'est comme ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est, peut-être la colère, elle l'a fait comme elle l'expulse de cette manière-là par l'activité physique. Et pour le coup, ce passage, c'est peut-être anecdotique, mais c'est intéressant de comparer, par exemple, le cinéma à la littérature, en tout cas dans la fabrication. À l'origine, j'avais simplement besoin que le personnage passe d'un décor à un autre. J'avais besoin qu'elle passe du décor de sa chambre au port de Gennevilliers. Et je ne voyais pas pourquoi, logiquement, le personnage irait là-bas. Et je me suis dit qu'elle allait sortir courir et que ce n'est pas aller l'entraîner, comme ça peut arriver. Parfois, on marche un peu au hasard. Et finalement, c'est devenu un chapitre à part entière parce que je me suis laissé moi-même entraîner par le rythme de la course en l'écrivant. Et c'était D'accord. une sorte de machinerie qui s'est mise en route comme ça et qui finalement voulait vraiment dire quelque chose par rapport à Nora et à son rapport au corps.
Rapport au corps aussi, il y a le rapport à la prostitution, le corps contraint, ouais. le corps martyrisé, le corps chosifié par l'enquête qui se situe dans ce milieu de la traite d'êtres humains. Alors il y a des passages assez difficiles. Alors moi, difficile à lire, c'est au coup de dire. Hein. Un livre, c'est fait pour faire éprouver des émotions au lecteur. Mais je me suis dit, mais d'un point de vue d'auteur, est-ce que ce passage-là du roman a été difficile à écrire? Et puis surtout, je ne dis pas que vous avez été dans les milieux de la prostitution, mais il faut se documenter, il faut...
Oui, bien sûr. Alors, il y a toujours une part de documentation qui est importante, même si moi, je ne suis pas très... comme les journalistes, par exemple, qui vont beaucoup sur le terrain, qui vont rencontrer des gens,
Ou assistantes
sociales. Moi, je me documente un petit peu à distance, il faut que je le reconnaisse. C'est-à-dire que je vais lire de la sociologie, je vais lire des revues, par exemple, d'associations d'aide aux prostituées, je vais lire des livres, des choses comme ça, voir des documentaires. Et puis surtout, même si on ne peut pas se dispenser de la documentation, je pense qu'il s'agit de se projeter et ça c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît de façon lumineuse depuis que j'écris de la littérature, c'est que tout personnage est une extrapolation de son auteur, c'est-à-dire que finalement on est tous capables de se projeter dans l'esprit ou presque dans le corps de quelqu'un d'autre. Il suffit de faire un effort qui fait jouer à la fois de la curiosité, de l'empathie et surtout...
C'est neurologique, hein, c'est les...
Je ne sais pas comment ça marche.
Ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que quelqu'un se fait mal et vous avez mal. Et c'est quelque chose d'encore plus... Évidemment, ça c'est basique, mais...
C'est un trait que j'ai attribué à Nora, ce que vous venez de décrire, qui a une sorte d'empathie presque maladive. Et pour l'écriture de personnages, il me semble que... Bien sûr, je ne prétends à aucun moment pouvoir faire l'expérience moi-même de... par exemple, je suis un homme, j'écris un personnage féminin, je ne prétends pas être une femme. En revanche, je peux trouver ce qui, en moi, est commun, ce qu'il peut y avoir de commun entre moi et cette femme. Si le personnage que j'écris, imaginons, il se trouve que je pense que vous faites référence à une sorte de long monologue intérieur d'une prostituée africaine, donc c'est-à-dire quelqu'un qui, en apparence, n'a rien de commun avec moi. Il me suffit d'aller chercher en moi, par exemple, la colère, la honte, le dégoût, ce sont des sentiments qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, dans des circonstances évidemment complètement différentes, mais on peut se projeter. Et c'est ces émotions-là qui sont le noyau commun que moi je peux avoir avec cette femme-là. Et ce passage a été en fait étrangement le plus facile à écrire. Il est venu tout seul d'une traite et il n'y avait presque rien à corriger.
D'accord. Écoutez, nous allons marquer une seconde pause musicale. Et écoutez, Cynthia Erivo nous chanter « Stand Up ».
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can, for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the salvation, and I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom call?
Calling me to answer, gonna keep.
parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous sommes de retour à l'antenne après cette chanson en forme de mélopée entêtante. Nous sommes en compagnie d'Olivier Chisetsky qui est venu nous parler de son dernier roman, Le Livre des Prodiges, paru aux éditions du Rouergue. Alors, en tant que présentateur d'une émission littéraire, je suis un peu l'intermédiaire de la curiosité publique. Et puis, quand on a lu plusieurs livres d'un même auteur, ben, on essaie un peu de croiser les choses en essayant de voir un peu quelles sont les choses qui reviennent. Et il y a cette question d'Afrique dans Feu dans la plaine. Hein. Stan, il revient de Goa, qui est un désert, qui est une ville où un désert prend le fleuve Niger en tenaille. Et Nora, elle est d'origine africaine. Alors moi, je me pose la question, est-ce que vous avez des liens avec ce continent ?
Non, j'ai pas de lien personnel avec ce continent, même s'il m'a toujours un petit peu fasciné. Maintenant, après, il y a un aspect juste personnel, c'est que j'ai longtemps été le seul blanc à la maison, étant donné que mes deux filles sont métisses, mon ex-compagne était d'origine africaine, et que il y a certainement un aspect, quelque chose qui m'a paru un peu étrange dans la fiction française. Là, je mélange l'écriture, la télévision, le cinéma. C'est que la représentation de ce qu'on appelle les personnes racisées, notamment à l'écran, ne correspondait pas à ce que moi je voyais à la fois chez moi, dans ma rue, etc. Et il m'a paru assez naturel, en fait, de... Après... Dans Feu dans la plaine, il y a un petit jeu avec le lecteur et la lectrice. Il y a un petit jeu avec les présupposés qu'on a quand on ouvre un livre et que quand on ne précise pas la couleur de peau du personnage, c'est que par défaut il est blanc.
C'est très bien fait. Qui... Et même pour Nora, c'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps.
Oui, parce que ça m'a toujours pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été lecteur de scénarios, c'est-à-dire que j'ai lu 4 ou 5 000 scénarios. Et à chaque fois, c'était la même chose. Si le personnage est noir, on précise qu'il est noir. Si on ne précise rien, c'est qu'il est blanc. J'ai voulu faire un peu comme Philip Ross dans La Tâche. C'est-à-dire qu'il y a un moment de révélation dans La Tâche où vous comprenez quelque chose, et qui n'est possible qu'en littérature. Vous comprenez quelque chose sur lui, sur son physique, que vous ne pouviez pas deviner, que à cause de vos préjugés ou vos automatismes de lecteur, vous n'aviez pas deviné. Donc j'ai un petit peu joué avec ça aussi, moi.
Bon. Ces filles qui sont dédicataires du livre, puisque
absolument.
À vos filles. Oui. Une autre question, c'était Stan et Nora, entre tous les deux dans des institutions, là il va aller dans l'armée pour lui donner un cadre, parce que c'est un enfant quand même qui a été placé dans des familles d'accueil. Et puis pour Nora, on en a bien parlé, hein, pour réaliser un idéal, un absolu. Ils partagent une certaine méfiance de leurs contemporains, un amour de la solitude. Il y a une certaine proximité, enfin.
Oui, maintenant que vous
Est-ce
le dites,
que c'est une part de vous-même ? Enfin, je ne veux pas vous psychanalyser en direct.
Non, hein, je vous en supplie. Mais oui, c'est très juste. Je n'ai pas fait attention à ça, mais c'est drôle parce qu'en surface, c'est un petit peu le contraire. J'ai pris un personnage masculin, un personnage féminin, un qui vit à la campagne, une qui vit dans le contraire de la campagne. Et en même temps, en effet, Stan avait certainement le pressentiment d'une violence en lui qui devait être canalisée, à défaut de quoi elle pouvait exploser.
Et dans un roman ou dans un film, quelqu'un qui n'aurait pas d'histoire ou de blessure ou de faille, je pense que c'est...
Tout à fait.
Ce serait difficile, il faut bien...
Tout à fait, mais c'est vrai que le recours à une institution, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Et donc, il faudra que je m'interroge sur cette question.
Vous êtes rebelle, c'est ça. Vous
en fait, je m'intéresse. J'aime beaucoup les histoires. Alors, c'est presque universel, mais les histoires de personnages qui sont emprisonnés dans quelque chose et qui doivent s'en libérer pour vivre pleinement leur vie. Et il se trouve que souvent, les institutions qui sont faites pour organiser, qui sont faites pour structurer, elles peuvent devenir emprisonnantes, qu'il s'agisse de l'école, de l'usine, de la famille, de l'armée, de la police. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me travaille beaucoup.
Ça, c'est pour les thématiques. Et on dit dans le polar qu'il faut avoir une adhésion au code, parfois prendre des contre-pieds des codes du polar, mais on parle rarement du style. Alors j'espère, dans les extraits que j'ai lus, qu'on aura senti toute l'épaisseur de votre style dans ses nuances. Et donc, le style, c'est souvent le je ne sais quoi en plus qu'on demande à un écrivain de se forger. Alors peut-être moins dans le polar, parce qu'il faut, il faut de l'action, il faut des poursuites, il faut parfois du sang, parfois des choses. Mais on dit souvent d'un écrivain qu'il doit trouver sa voie. On dit que l'émotion naît d'un certain trait d'un certain traitement du mot. Est-ce que vous, c'est important? Comme tout écrivain, trouver le mot juste, je dirais, c'est le minimum syndical. Mais dans la forme, est-ce que vous le travaillez?
Alors, d'une part, c'est vrai que le premier pas du style, la première décision stylistique, c'est de trouver le mot juste. Et de trouver le mot juste, qu'il ne soit pas le mot, comme disait Mallarmé, de la tribu. C'est-à-dire qu'on est plongé dans un environnement de discours, hein, on écoute la radio, on... Le discours ambiant change assez vite et on acquiert des automatismes qui, en fait, à mon avis, n'ont rien à faire dans un livre, puisqu'on est là pour rechercher une certaine vérité. Donc, on ne va pas utiliser les clichés du moment pour décrire quelque chose qui nous paraît digne d'être décrit. Et puis, les poursuites, les scènes d'action, elles aussi peuvent être écrites avec style. Mmh. Les scènes d'action, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ce sont des moments très rythmés, presque percussifs. On peut jouer avec les retours à la ligne, avec des phrases courtes, décomposer les gestes. C'est quelque chose qui est très, oui. très agréable à faire.
Accélérer ou ralentir.
Ralentir, exactement. Distendre un moment, je me suis inspiré par exemple, je l'avoue et je l'admets, de certains animés japonais qui vont vous faire, le temps qu'une balle sorte du canon et atteigne sa cible, ils vont vous faire un épisode de 20 minutes. Et je trouve ça assez fascinant. Et pour moi, le style, c'est pas du tout enjoliver les choses, ou c'est pas pour faire joli, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'écriture, le rythme de la phrase. On sent tout de suite, c'est de la musique, c'est des sonorités. Je me suis aperçu quand j'ai dû... Le Feu dans la plaine a été édité en livre audio, donc je l'ai relu entièrement à haute voix pour voir si je devais changer des choses. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'erreurs de rythme ou d'approximations que je pouvais améliorer.
C'est troublant, parce que quand on le lit... comme ça, dans sa tête, comme on dit. Hein.
On s'en rend pas compte.
On s'en rend pas compte. Au contraire, on a l'impression que c'est très musical. Quoi.
Mmh. Ouais. Oui, non, c'était déjà pas mal.
Hein. Ouais. Bien sûr. Bon. Mais c'est tellement pas mal que je vais vous poser une question. C'est, est-ce que vous imaginez que l'un de vos romans puisse être transposé en film? D'abord, est-ce que vous l'accepteriez? Et d'expérience, est-ce qu'un bon film est forcément un bon scénario?
Alors, est-ce que je l'accepterais? Oui. Évidemment, même s'il y a des choses, il y a des éléments dans les deux livres qui ne peuvent pas être adaptés tels quels parce qu'ils sont strictement littéraires ou qu'ils sont difficiles à représenter. Et vous m'avez demandé si un bon livre faisait un bon scénario.
Oui.
Avec un bon scénariste, oui.
Très bien. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Il faut regarder l'avenir. Et vos projets littéraires. Je sais, parce qu'on laisse des signes sur Internet, qu'au mois de mai 2026, vous êtes dans la maison de Marguerite Yourcenar, en résidence d'écriture. On dit que le deuxième roman est le plus dur à écrire, mais là, vous entamez peut-être... Ah, je ne sais pas, moi, peut-être que vous en avez dans les tiroirs. Mais le troisième roman...
Je pense que c'est le troisième le plus difficile. Bon. Le deuxième, je l'avais en réalité déjà prémédité avant le premier. C'est-à-dire que le deuxième a été dans un premier temps un projet de film donc, qui a déjà mûri, que j'ai déjà beaucoup réfléchi avant même de penser à en faire un livre. Là, à l'inverse, je commence à réfléchir au troisième et c'est vrai que je suis un petit peu dans le moment de l'angoisse parce que je ne veux pas refaire la même chose, je veux faire quelque chose de différent.
Et sans divulguer les choses, mais ce serait un polar aussi?
Ce serait un roman noir qui emprunte à différents genres. Ce serait un mélange de roman noir et d'Annie Ernaux pour une partie, ou un mélange de roman noir et d'espionnage pour une autre partie. Je cherche, j'aimerais une structure un peu plus complexe avec des personnages un peu plus nombreux, mais je suis vraiment en plein dans le chantier, donc je ne sais pas si je vais y arriver et ce qu'il en restera à la fin.
Vous avez un premier lecteur et une première lectrice à chaque fois que vous arrivez à avoir quelque chose d'abouti. Comment ça se...
Alors ce serait précieux. Feu dans la plaine, je l'ai fait lire à deux personnes avant de l'envoyer à un éditeur. Le deuxième livre, le livre des prodiges, a été lu par d'autres, par des scénaristes au moment où c'était un projet de film. Il faut que je trouve mon système pour le nouveau livre parce que c'est difficile de demander à quelqu'un de lire vraiment votre manuscrit. Ça demande beaucoup de temps, d'attention. Il faut l'analyser, il faut faire des retours constructifs. Donc il faut bien choisir son lecteur ou sa lectrice.
Et a posteriori, les lecteurs et lectrices que vous rencontrez pour Feu dans la plaine ou que vous allez rencontrer, est-ce que des fois, ils n'ouvrent pas des perspectives qu'on n'avait pas vues ou que...
si
quel est le retour ?
C'est amusant parce que chacun me dit « Ah, mon passage préféré, c'est ceci » et c'est jamais le même. Mais pour Feu dans la plaine, c'est encore plus particulier parce que la fin a occasionné des interprétations vraiment diverses. Moi, j'étais persuadé d'avoir écrit un dénouement parfaitement clair et les gens se sont imaginés des choses tout à fait différentes. Donc, j'ai l'impression que le livre, il est fini uniquement quand il est entre les mains des lecteurs. C'est-à-dire que nous, on fait la première partie du travail et c'est les lecteurs qui accomplissent le reste.
Eh bien, je vous remercie, Olivier Chisetsky. Cette émission se termine. Merci d'être venu. Je conseille bien évidemment aux auditeurs et auditrices la lecture de vos deux romans, Feu dans la plaine, paru au Livre de Poche, et Le Livre des Prodiges, paru récemment aux éditions du Rouergue, deux livres qui sont captivants avec des personnages principaux et secondaires qui partagent une complexité et qui évitent toute caricature. Enfin voilà, il suffit d'écouter cette émission pour ne pas en douter. Il est plein de des récits haletants, plein d'émotions. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à un bon polar ? Je remercie aussi Coraline Camebrac pour son soutien technique et la mise en onde de cette émission. Cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Présence ou en podcast sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.